Chapitre 27. Plaine d'Ilium. Les Troyens sont en train de massacrer les Grecs. Dans ma vie antérieure, mes étudiants auraient dit qu'ils déciment les Grecs, faisant preuve de la même paresse intellectuelle que les journalistes de la fin du XXe siècle et du début du XXIe, qu'ils aient travaillé dans la presse écrite ou à la télévision. Mais le verbe « décimer » avait à l'origine un sens bien précis chez les Romains, qui signifiait tuer une personne sur dix pour réprimer la sédition. Et on ne peut pas dire à cet égard que les Troyens se contentent de ce quota. Ils sont en train de massacrer les Grecs. Après avoir adressé son ultimatum aux dieux, Zeus se técut sur terre dans son char doré et atterrit sur les flancs du mont Ida, la plus haute montagne à portée divine d'Ilium, où il s'assied sur le trône qui l'attend, pour considérer les murailles de la cité et les centaines de vaisseaux de guerre achéens amarrés à proximité du rivage. Comme les autres dieux, impressionnés par la démonstration de puissance qu'il vient de leur faire, n'osent pas venir jouer à la guerre, le père des dieux lève sa balance dorée et pèse la destinée des hommes qui s'affrontent à ses pieds. Sur un plateau repose un poids ayant la forme d'un cavalier troyen, son vis-à-vis ayant celle d'un lancier argien. Zeus lève bien haut la balance sacrée, tenant le fléau à mi-hauteur, et c'est un jour de malheur qui est décrété pour les Achéens, tandis que la bonne fortune sourit aux Troyens. Zeus sourit en découvrant le verdict, et je me suis suffisamment rapproché de ce vieux salopard pour voir qu'il a donné un petit coup de pouce au destin. Les Troyens surgissent des portes de leur cité comme des frelons en furie, jaillissant de leur nid. Le ciel est gris, bas, lourd d'une sombre énergie, et les traits lancés par Zeus en jaillissent pour frapper le champ de bataille, toujours parmi les Argiens et les Achéens aux longs cheveux. Quoique conscients de la colère du roi des dieux, les Grecs foncent quand même au combat. Ils n'ont pas vraiment le choix. Et sur la plaine d'Ilium résonne le fracas des boucliers qui s'entrechoquent, des piques qui se heurtent, des chars qui martèlent le sol, des hommes et des chevaux qui meurent. Dès le début, ça se passe mal pour les Achéens. La foudre frappe leurs rangs, grillant les guerriers comme des poulets caparaçonnés de bronze. Hector mène la charge, pareil à une force de la nature, et l'homme paisible que j'ai admiré sur les remparts, en compagnie de sa femme et de son fils, a totalement disparu, pour être remplacé par un sauvage couvert de sang qui fauche les hommes comme des brins d'herbe et exhorte ses guerriers au carnage. Obéissant comme un seul homme, les Troyens et leurs alliés déferlent des portes de la cité en hurlant à l'unisson, engloutissant les Achéens en déroute tel un raz de marée de cuivre et de bronze. Paris, que j'ai décrit comme un bellâtre lors de sa rencontre avec Hector, juste avant de le cocufier, charge aux côtés de son frère, métamorphosé lui aussi en une démoniaque machine à tuer. Paris est avant tout un archer redoutable, et ce jour-là, ses longues flèches semblent toutes portées. Achéens et Argiens s'effondrent, frappés par ses traits à la gorge, au cœur, aux génitoires et aux yeux. Chaque coup fait mouche. Hector taille dans le vif chaque poche de résistance grecque, fauchant les têtes comme des marguerites, n'accordant aucun quartier, sourd qu'il est dans sa rage aux suppliques de l'ennemi. Lorsque, ça et là, les Achéens parviennent à se ressaisir et tentent une ébauche de résistance, un éclair d'énergie bleue surgit des nuages bas pour exploser parmi eux, telle une grenade cosmique, et le tonnerre qui le suit se mêle à leurs cris d'agonie. Idoménée et le roi Agamemnon prennent leurs jambes à leur cou. Le grand et le petit Ajax, vétérans d'un millier de campagnes, perdent de courage et s'enfuient. Odysseus, le héros d'endurance, ne peut endurer ce massacre et décide que la meilleure partie du courage se trouve sans doute à l'abri de ses nefs. Il court sacrément vite pour un homme aux jambes courtaudes. Le seul qui ne se défile pas, c'est le vieux Nestor, et ce uniquement parce que l'époux d'Hélène a planté une flèche dans le crâne de son cheval de tête, semant la panique dans le reste de l'attelage. Nestor s'empresse de couper des traits à la volée, bien décidé à filer lui aussi loin du combat, mais voilà que survient le char d'Hector. Que les hommes de Nestor tombent sous les flèches de Paris et que le vieil homme se retrouve seul, la totalité de ses chevaux ayant pris la fuite. Passe alors Odysseus qui ne lui accorde même pas un regard, et le vieil homme le hèle en ces termes.
« Où vas-tu d'un pas si vif, fils de Laerte, ô tacticien si réfléchi ?»
Peine perdue, ignorant les sarcasmes de son vieil ami, Odysseus poursuit sa retraite précipitée, disparaissant dans un nuage de poussière. Diomède, qui redoute de passer pour un couard bien plus qu'il ne craint la mort ou la souffrance, replonge au sein de la mêlée, bien décidé à secourir Nestor et à repousser Hector. Il saisit Nestor comme s'il s'agissait d'un sac de linge sale, et le vieux meneur de char s'empare des rênes, propulsant Diomède droit sur Hector. Il s'approche assez près du fils de Priam pour lancer sa pique, mais c'est Éniopée, fils de Thébée, le conducteur du char d'Hector, qu'elle tue. Et l'espace d'un instant, l'espoir semble changer de camp lorsque la panique s'empare des chevaux comme des fantassins troyens. Chaque bataille, ai-je lu quelque part, voit survenir un moment décisif comme celui-ci. Tandis qu'Hector tente de reprendre le contrôle de ses bêtes et que les Troyens s'agitent autour de lui, désemparés, les Grecs s'engouffrent dans la brèche à la suite de Nestor et de Diomède, sentant que le cours de la bataille est près de changer. Ce sont les Achéens qui reprennent maintenant l'initiative, lançant des cris de défi et fauchant les Troyens à la tête de leurs troupes. Puis, Zeus intervient une nouvelle fois. Le tonnerre frappe. La foudre laboure le sol et les chevaux disparaissent dans un éclair aveuglant alors que monte la puanteur du soufre et de la corne brûlée. Tout autour de Diomède et de Nestor, les chars achéens explosent dans une gerbe de cadavres humains et de chair équine. Le bronze des armures est liquéfié, le cuir des boucliers pulvérisé. Même un crétin intégral comme Diomède ne peut pas ne pas comprendre que Zeus est fâché contre lui. Nestor tente de maîtriser ses chevaux, mais ils ont pris le mort aux dents, au sens littéral du terme, et sont devenus incontrôlables. Leurs chars, seuls à présent que tous les Achéens ont battu en retraite, foncent sur 10 000 Troyens enragés.
« Vite, Diomède, attrape les rênes et aide-moi à guider ces étalons vers notre camp !»
s'écrie Nestor.
« Continuer le combat serait aller à une mort certaine !»
Diomède saisit les rênes, mais le char continue à foncer vers l'armée adverse.
Si je fuis, vieux soldat, Hector aura beau jeu de dire à ses troupes, Diomède s'est réfugié dans ses nefs parce que je le poursuivais.
Nestor empoigne la gorge musclée de son camarade.
Quel âge as-tu donc? 6 ans? Fais faire demi-tour à ce putain de char, espèce d'enfoiré, ou Hector transformera notre éponge d'artière avant l'heure du thé.
Ou quelque chose comme ça. Je me trouve à 100 mètres de là, durant la scène, et mon micro directionnel ne fonctionne peut-être pas très bien. En outre, comme j'ai pris la forme d'un fantassin grec, je bats en retraite avec mes camarades et je suis obligé de regarder par-dessus mon épaule pendant que tombent en grêle les flèches de Paris. Diomède passe 2 ou 3 secondes à s'escrimer sur ce dilemme, puis c'est sur les chevaux qu'il s'escrime, les obligeant à tourner la tête afin que le char se dirige vers le refuge des nefs noires.
« Ha !»
lance Hector en plein vacarme. Il vient d'hériter d'un nouveau cocher, le bel Archéptolème, fils d'Iphite, et repart à l'assaut avec la vigueur d'un homme qui adore son travail.
« Ha ! Diomède, je t'ai fait tourner les talons ! Lâche ! Fillette ! Poupée en armure étincelante ! Paix de moineaux frémissants !»
Diomède se tourne vers lui, fulminant de colère et de honte, mais c'est Nestor qui tient désormais les rênes, et les chevaux ont compris eux aussi que la retraite était préférable au combat. Ils sont tellement pressés de gagner le refuge offert par la plage qu'ils piétinent sans discernement rochers et fantassins, et le seul recours qui se présente à Diomède pour en découdre avec Hector, c'est de sauter à terre et d'affronter les milliers de Troyens se lançant à l'assaut. Il préfère s'en abstenir.
« Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot »,
m'a dit Hélène ce matin. Elle a ensuite entrepris de m'interroger sur l'Iliade, prenant ma connaissance de cette œuvre pour un pouvoir de voyance, et m'a encouragé à trouver le pivot des événements, le tournant essentiel dont dépend l'issue de cette guerre, la charnière du destin, pour ainsi dire. J'ai réagi en tournant autour du pot, allant jusqu'à lui faire l'amour une nouvelle fois pour la distraire, mais je n'ai cessé depuis lors de réfléchir à la question.
« Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot. »
Je parierais ma réputation d'érudit homérique que le pivot de cette tragédie est désormais imminent. L'ambassade envoyée à Achille. Pour le moment, les événements continuent plus ou moins de suivre le cours de l'épopée, même avec Aphrodite et Arès sur le banc de touche. Zeus a parlé et il est intervenu en faveur des Troyens. Je n'ai aucune intention de me técu à Olympos, à moins d'y être obligé. Mais je suis sûr qu'on y joue là aussi le récit de Laède. Erré, redoutant que ses Argiens bien-aimés soient écrasés, tente de convaincre Poséidon d'intervenir en leur faveur, scandalisant l'ébranleur de sol qui n'a aucune envie d'affronter Zeus. Plus tard, lorsque viendra pour les Grecs l'heure de la déroute, Athénée se déshabillera, puis enfilera sa splendide armure au plastron étincelant, et ça vaudrait peut-être la peine d'aller faire un tour à Olympos, rien que pour se rincer l'œil. Mais elle sera stoppée dans son élan par Iris, la messagère de Zeus, dont le message sera des plus clairs. « Si Héré et toi tentez de vous opposer à moi, ma fille aux yeux gris, je romprai les jarrets de vos chevaux rapides, je vous jetterai toutes les deux à bas du siège, je fracasserai votre char. » 10 longues années pourront ensuite s'écouler. Les cuves et les asticots ne vous guériront pas des coups portés par ma foudre. Athénée restera à Olympos. Après quelques heures d'une contre-attaque couronnée de succès, les Grecs souffriront de pertes plus lourdes encore et se retireront derrière leurs fortifications, la tranchée qu'ils ont creusée il y a 10 ans, juste après leur débarquement, les 1000 pieux acérés qu'ils ont plantés dans le sol, toutes les défenses récemment remises à neuf sur ordre d'Agamemnon, mais même en sûreté, les Achéens perdront tout espoir et exigeront de rentrer chez eux. Agamemnon tentera de les rallier à sa cause en organisant un grand festin en l'honneur de leur roi, alors même qu'Hector et son armée se préparent à l'ultime assaut, bien décidés à bouter le feu aux nefs achéennes et à achever cette guerre une bonne fois pour toutes. Et, durant ce festin, Nestor déclarera que leur seul espoir réside en une réconciliation d'Agamemnon et d'Achille. Agamemnon acceptera de verser à Achille une rançon de roi, bien plus qu'une rançon de roi en fait, 7 trépieds, 10 talents d'or, 20 chaudrons resplendissants, 12 d'étalons, 7 belles femmes et que sais-je encore, un raton laveur peut-être. Par-dessus le marché, il acceptera de lui restituer Briseis, fille de Brisès, l'esclave à l'origine de cette querelle. Cerise sur le gâteau, Agamemnon jurera qu'il ne l'a même pas touché. Pour finir, il ajoutera à ses cadeaux les 7 citadelles suivantes, Cardamyle, Enope, Irée, Antéia, Fère, Épeia et Pédase. Certes, ce n'est pas lui qui en est le souverain, il offre à Achille les fiefs de ses voisins et non les siens, mais c'est l'intention qui compte, je suppose. Tout ce qu'Agamemnon refusera de donner à Achille, ce sont ses excuses. Le fils d'Atrée est bien trop fier pour faire des courbettes. « Qu'il se soumette à moi », déclarera-t-il dans quelques heures à un auditoire comprenant Nestor, Odysseus, Diomède et les autres rois. « Je suis plus grand roi que lui, et par mon âge, je me flatte d'être plus grand homme. » L'arrogance d'Agamemnon n'empêchera pas Odysseus et les autres de saisir cette occasion. S'ils vont annoncer à Achille que Briseis lui sera rendu, sans parler de tous les merveilleux cadeaux qui l'attendent, et s'ils s'abstiennent de lui rapporter la fin du discours d'Agamemnon, peut-être y a-t-il une chance pour qu'Achille reprenne les armes. Leur ambassade leur donne à tout le moins des raisons d'espérer. Et c'est là que ça se complique. Là que j'ai des chances de trouver ce fameux pivot. En tant que lettré, je sais au fond de mon âme que l'ambassade chez Achille est le cœur même, le pivot de l'Iliade. La décision que va prendre Achille sera déterminante pour le futur de la guerre de Troie. La mort d'Hector, celle d'Achille lui-même, la chute d'Ilium. Sauf qu'il y a un hic. Homère choisit ses termes avec un soin extrême. Peut-être est-il à cet égard le conteur le plus rigoureux de l'histoire de la littérature. Il nous dit que Nestor désigne 5 hommes pour composer cette ambassade. Phénix, Ajax le Grand, Odysseus, Odios et Eurybate. Ces 2 derniers ne sont que des héros, uniquement présents pour des raisons de protocole, et ils n'accompagneront pas les véritables ambassadeurs devant la tente d'Achille, pas plus qu'ils ne prendront la parole. Le problème, c'est que le choix de Phénix est des plus étranges. C'est la première fois qu'il apparaît dans le texte, et il est présenté comme l'ancien précepteur d'Achille plutôt que son compagnon d'armes, de sorte qu'on ne voit pas comment il pourrait parvenir à le convaincre. En plus de cela, lorsque les ambassadeurs se dirigent vers la tente d'Achille, avançant le long du rivage de la mer au bruit sans nombre, Homère utilise un verbe à la forme duale, une forme intermédiaire entre le singulier et le pluriel que l'on n'emploie que pour 2 personnes, ici Ajax et Odysseus. À 7 reprises, Homère use de termes qui, dans le grec tel qu'on le parlait en son temps, aujourd'hui donc, se rapportent à 2 personnes et non à 3. Où se trouve Phénix pendant que les 2 hommes vont du quartier d'Agamemnon à celui d'Achille? Est-il déjà dans la tente de ce dernier, attendant les autres ambassadeurs? Ça n'a guère de sens. Nombre de lettrés de mon époque et de celles qui l'ont précédé affirmaient que Phénix était une pièce rapportée au récit, un personnage ajouté bien des siècles plus tard, ce qui expliquerait cette forme duale, Sauf que, des trois discours prononcés par les ambassadeurs, c'est celui de Phénix qui est le plus long et le plus complexe. Une tirade si merveilleusement digressive et alambiquée qu'elle ne peut être due qu'à Homère. Tout se passe comme si Laède aveugle ignorait le nombre exact d'ambassadeurs ainsi que le poids du discours de Phénix dans la décision d'Achille, si lourde de conséquences pour le destin de tous. J'ai quelques heures pour réfléchir à tout cela.
Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot.
Mais revenons au présent. Nous sommes en milieu d'après-midi et les Troyens marquent une pause devant la tranchée achéenne pendant que les guerriers grecs s'agitent comme des fourmis derrière leurs murailles de pieux et de rochers. Toujours déguisé en lancier achéen suant à grosses gouttes, je réussis à me rapprocher d'Agamemnon alors que celui-ci harangue ses hommes et implore la faveur de Zeus en ces heures sombres.
« Honte à vous !»
lance le fils d'Atrée à ses soldats harassés. Il n'est entendu que d'un centième de son armée naturellement, vu l'acoustique de l'époque, mais sa voix est puissante et on se relaie son message dans les rangs.
« Lâche que vous êtes ! Vos armures sont splendides, mais ce n'est qu'un faux semblant ! Vous avez fait serment de brûler cette ville ! Vous avez dévoré force filet de bœuf à mes frais ! Vous avez bu force coupe de vin remplie à ras-bord à mes frais, encore une fois ! Et maintenant, regardez-vous ! Un ramassis de vaincus ! Vous qui vous vantiez chacun de tenir tête à 100, que dis-je, à 200 Troyens, voilà qu'il suffit d'un seul mortel pour vous faire reculer, un mortel nommé Hector. D'une minute à l'autre, Hector va fondre sur nous à la tête de ses hordes, livrant nos nefs au feu dévorant, et tous ces beaux héros,
tout juste s'il ne crache pas ce dernier mot,
vont courir se réfugier auprès de leurs femmes et de leurs enfants. À mes frais !
Se détournant de son armée, Agamemnon lève les bras au ciel en direction du sud, du mont Ida, d'où sont venus la foudre et le tonnerre.
Zeus, père ! Comment peux-tu ainsi t'acharner sur ma gloire ? En quoi ai-je pu t'offenser ? Jamais ! Jamais, je le jure ! Je n'ai dépassé un de tes autels splendides avec une nef bien garnie de rames, sans brûler sur chacun la graisse et les cuisses d'un bœuf, et ce pour ta gloire. La prière que nous t'adressions était toute simple. Permets-nous de raser Ilium, de tuer ses héros, de violer ses femmes, de réduire son peuple en esclavage. Était-ce trop demandé? Père, accomplis mon désir. Permets-nous d'échapper et de nous sauver, rien de plus. Ne laisse pas les Achéens être domptés par Hector et ses Troyens.
J'ai connu Agamemnon plus éloquent. Tous les discours que je l'ai entendu prononcer avant ce jour ont été plus éloquents d'ailleurs. Et je comprends qu'Homère ait éprouvé le besoin de réécrire celui-ci. Mais voilà que soudain le miracle se produit. Du moins, les Achéens choisissent-ils d'y voir un miracle. Surgit de nulle part, apparaît un aigle venu du sud, un aigle gigantesque, tenant un faon entre ses serres. Les guerriers qui fonçaient vers les nefs, et qui n'avaient marqué une brève pause que pour écouter Agamemnon, se fichent sur place devant cette vision. L'aigle décrit quelques cercles, puis perd de l'altitude et laisse choir d'une hauteur de 30 mètres le faon paniqué, qui s'écrase sur une petite butte de sable, au pied de l'autel de pierre que les Achéens ont érigé en l'honneur de Zeus dès leur débarquement. Et ça y est, au bout de 15 secondes d'un silence interloqué, un rugissement monte des rangs. Des hommes défaits il y a 10 minutes redeviennent de farouches guerriers, leur cœur et leurs mains rassénérés par le pardon et l'approbation que Zeus vient de leur manifester sans embâge et sans plus attendre. 50 000 Achéens, Argiens, etc. se remettent en formation derrière leur chef. On rattache les chevaux à leur char, qui franchissent à nouveau les ponts jetés sur les fossés, et à nouveau la bataille fait rage. L'heure de l'archer a sonné. Bien que Diomède ait pris la tête de la contre-attaque, suivie de près par les Atrides, Agamemnon et Ménélas, lesquels sont à leur tour suivis par les deux Ajax, et bien que ces héros éprouvent les Achéens de leurs lances et de leurs épées, la lutte se concentre autour de l'archer achéen nommé Théoucros, fils bâtard de Télamon et demi-frère d'Ajax le Grand. Théoucros a toujours été considéré comme un maître archer, et je l'ai vu au fil des ans terrasser des douzaines de Troyens, mais jamais il n'a été autant à la fête. Ajax et lui ont trouvé leur rythme. Théoucros se tapit derrière le bouclier de son demi-frère, un bouclier rectangulaire qui, s'il faut en croire les historiens, était inconnu à l'époque de la guerre de Troie. Et chaque fois qu'Ajax le soulève, Théoucros décoche un trait dans les rangs troyens distant d'une soixantaine de mètres. Il semble incapable de rater sa cible. Il commence par tuer Orsiloque, lui plantant dans le cœur une flèche barbelée. C'est ensuite au tour d'Ophéleste, un capitaine qui reçoit une flèche dans l'œil droit lorsque le Troyen émerge de son abri de cuir. Daïtor et Chromios tombent tout de suite après, mortellement blessés par deux traits imparables. Chaque fois que Théoucros se découvre, les Troyens tentent de l'atteindre de leurs flèches et de leurs lances, mais Ajax le grand veille et les projectiles se brisent sur son massif bouclier. Les Troyens marquent une pause dans leur attaque. Ajax lève son bouclier et Théoucros abat Lycophonte, prince d'une lointaine cité qui n'est que blessé. Lorsque ses capitaines se précipitent à son aide, Théoucros lui plante une deuxième flèche dans le foie. Puis c'est Amopaon, fils de Polyémon, qui s'effondre une flèche dans la gorge. Il veut se relever alors que jaillit de son artère un geyser d'1,50 m, mais la flèche l'a cloué au sol et il se vide de son sang en moins d'une minute, à l'issue d'un ultime et pitoyable spasme. Les Achéens poussent un cri de joie. Je connaissais Amopaon. Il fréquentait la même taverne où je retrouvais souvent Nighton Elser, et nous y avons maintes fois bavardé paisiblement. Il m'a raconté que son père, Polyémon, était l'ami d'Odysseus avant la guerre, et qu'un jour, alors qu'il séjournait à Ithaque, il avait tué un sanglier sauvage qui venait de blesser Odysseus à la jambe, sauvant sans doute la vie de ce dernier. Odysseus en conserve encore aujourd'hui une vilaine cicatrice, m'a affirmé Amopaon. Ajax se baisse, tenant son bouclier ainsi qu'un toit protecteur au-dessus de son demi-frère et de lui-même, et les flèches troyennes viennent s'y fracasser. Puis Ajax se redresse, lève son bouclier, et Théoucros tue Mélanippe à 80 mètres de distance d'une flèche qui lui pénètre l'aine pour ressortir par l'anus. Les camarades de Mélanippe s'écartent de lui en grimaçant, tandis qu'il s'effondre et passe de vie à trépas. Nouvelles acclamations des Achéens. Agamemnon descend de son char pour adresser ses encouragements à Théoucros, lui promettant une sélection de trépieds et de pur sang, à condition, précise-t-il, que Zeus et Athénée lui laissent piller les trésors de Troie, plus une Troyenne de son choix pour prendre place dans son lit. Il va même jusqu'à prononcer le nom d'Andromaque, l'épouse d'Hector. Théoucros se montre quelque peu agacé.
« Fils d'Atrée, penses-tu qu'il soit nécessaire de me pousser à plus d'ardeur en me parlant de récompense? Je suis à l'affût et ne puis faire mieux. 8 flèches, 8 morts.
« Mais tue donc Hector !»
lance Agamemnon.
« Je n'arrête pas de lui tirer dessus !»
réplique Théoucros, le visage cramoisi.
« Hector est ma cible, lui et personne d'autre. Mais je n'arrive pas à atteindre ce salopard !»
Agamemnon se tait. Comme pour répondre à son défi, Hector propulse soudain son char en première ligne, s'efforçant de rallier ses hommes qui ont perdu courage sous les assauts de Théoucros. Ajax ne prend pas la peine de lever son bouclier, car Théoucros se dresse de toute sa taille, bande son arc, vise et tire. La flèche rate Hector d'un cheveu, frappant Gorgithion, un autre fils de Priam, alors qu'il passe près du char. Le colosse se fige, considère d'un air surpris l'empennage de la flèche plantée dans son torse, comme s'il croyait à une blague de chambré, puis sa tête semble soudain trop lourde pour son cou massif, lui tombant sur l'épaule, comme sous le poids du casque dont elle est coiffée. Et Gorgithion tombe mort sur le sable ensanglanté.
« Merde !»
s'exclame Théoucros. Il tire une nouvelle flèche. Hector s'est encore rapproché et son torse bombé est une cible immanquable. Mais c'est Archéptolème, le conducteur du char d'Hector, que frappe le trait. Les chevaux, bien entraînés au combat, se cabrent puis bondissent lorsque le sang d'Archéptolème leur inonde les flancs et le jeune homme va mordre la poussière.
« C'est brillant !»
s'écrie Hector. Il vient d'empoigner les rênes et appelle à la rescousse un autre de ses demi-frères, un autre fils du prolifique Priam. Ses brillons montent d'un bond sur le char, comme Hector en descend. Fou de rage, profondément peiné par la mort du fidèle Archéptolème, Hector s'avance vers l'ennemi, offrant à nouveau une cible à Théoucros, et soulève d'une main le plus gros rocher à sa portée, qui est aussi le plus pointu. Apparemment oublieux de la finesse tactique qui a fait sa réputation, Hector régresse au stade de l'homme des cavernes et empoigne le rocher pour prendre son élan, m'évoquant irrésistiblement Sandy Koufax en pleine action lors d'un championnat de baseball. C'est la première fois que je remarque qu'Hector est ambidextre. Saisissant l'occasion, Théoucros pêche une nouvelle flèche dans son carquois, bande à nouveau son arc et vise le cœur d'Hector, certain de pouvoir lui loger une flèche, voire deux, avant qu'il ait eu le temps de finir son lancer. Il se trompe. Hector se montre aussi rapide que précis. Le rocher frappe Théoucros sur la clavicule, juste à côté de la gorge, un instant avant qu'il ait lâché son trait. Les os craquent, les tendons se rompent. La main de Théoucros s'amollit, la corde de son arc se détend, et la flèche se plante dans le sol entre ses pieds chaussés de sandales. Hector fonce sur lui, renversant les Achéens qui se trouvent sur son chemin, et les archers troyens concentrent leur feu sur le malheureux Théoucros, mais Ajax le Grand n'abandonne pas son frère. Il le protège à nouveau de son bouclier pendant que d'autres Achéens repoussent l'infanterie troyenne. Répondant au cri d'Ajax, ou plutôt à son beuglement, Mécistée et Alastor emportent l'archer gémissant à l'abri tout relatif des nefs creuses. Théoucros a eu son quart d'heure de gloire. Ensuite, ça se gâte très vite pour les Grecs. Interprétant sa survie comme un signe approbateur de Zeus, Hector repart à l'attaque, encore et encore, pilonnant les Achéens démoralisés. Agamemnon, Ménélas et les autres seigneurs qui ont prêché la guerre fraîche et joyeuse il y a quelques heures à peine s'avouent enfin battus. Les Achéens sont même tellement déconfits qu'ils en oublient de défendre leurs murs de pieux et leurs tranchées, et seul le coucher de soleil et la soudaine venue de la nuit empêchent les Troyens d'incendier leurs navires. Pendant que chez les Achéens règne la confusion la plus totale, certains se préparent déjà à appareiller, d'autres restent assis par terre, les yeux dans le vide, sous le choc. Hector la joue Henri V et harangue ses troupes, encourageant ses hommes à reprendre le carnage dès le lever du jour, envoyant chercher des bœufs en vue d'un grand festin et d'un grand sacrifice, faisant venir du vin au miel et des chariots de pain frais, que les Troyens affamés dévorent avec un appétit d'ogre, ordonnant que soient allumés des feux derrière les défenses achéennes afin de priver l'ennemi d'un sommeil réparateur. Je coiffe mon casque d'Hadès et m'avance, invisible, parmi les Troyens. « Demain !» crie Hector à ses guerriers en délire. « Demain !»« J'étriperai, Diomède, devant ses hommes, ainsi qu'un vulgaire poisson. S'il n'a pas choisi de fuir cette nuit, je lui briserai l'échine avec la pointe de ma lance, et nous clouerons la tête de ce vantard au-dessus des portes C !» Rugissement des Troyens. Des feux de camp montent des étincelles qui vont se perdre parmi les étoiles. Invisible aux yeux des dieux et des hommes, je franchis à nouveau la tranchée, me faufile entre les pieux acérés et retrouve les Grecs abattus. Pour moi est venue l'heure de la vérité. Agamemnon a déjà convoqué ses capitaines et il décide de la suite des événements. Faut-il fuir ou bien envoyer une ambassade auprès d'Achille? Plus question de faire demi-tour. Je me morphe pour prendre l'aspect de Phénix le Myrmidon, fidèle ami et mentor d'Achille, et foule le sable de plus en plus frais pour rejoindre le conseil.
« Si tu veux changer nos destinées, tu dois trouver le pivot.